Donc voilà, pensez à quelqu'un qui réussit la plupart de ses entreprises. Quelqu'un qui fait bien son boulot, quelqu'un qui est salué avec respect, qui est admiré. Courage, la force, l'éclat. Quelqu'un avec qui on rêverait de faire un selfie pour le mettre sur sa page Facebook ou autre, ce serait vraiment top. Et derrière, c'est « j'aimerais être lui, j'aimerais être elle », la figure de la réussite. Quelqu'un qu'on admire, qu'on convoite, ou dont on convoite le prestige. Une star populaire, ou bien, ça nous arrive aussi, une star chrétienne. Un prophète, un apôtre. Nous aimerions changer notre place avec lui ou elle. Eh bien, celui dont je parle, lui, vivait au 9e siècle avant Jésus-Christ, dans un peuple voisin d'Israël, Aram, les Araméens. Et c'est le texte que je vais lire le texte par morceaux et le commenter au fur et à mesure. Voilà, donc vous pouvez suivre la lecture dans 2 Rois 5 si vous voulez. Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son seigneur. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le seigneur avait donné la victoire à Aram. Très bien. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Et littéralement, en hébreu, « et l'homme, celui-ci, vaillant guerrier, lépreux. » C'est un dernier mot, revoyez l'ensemble du texte, c'est un dernier mot auquel on n'est pas préparé et qui change tout. Juste un mot et tout bascule. Comme au moment, je ne sais pas si ça vous est arrivé comme ça, des moments que vous aviez tant rêvé, tant attendu, le moment idéalisé, le moment parfait, il est là, la personne idéale est là. Elle sourit, la personne idéale, et elle vous dit « Je viens de marcher dans une crotte de chien. » Et ça casse l'ambiance. Mais là, la crotte de chien, c'est pas grave. Là, il est lépreux. Et pour lui, sans doute, cette lèpre se voyait, parce que le mot ne désigne pas ce que nous qualifions de lèpre aujourd'hui, ou pas que, il désigne des maladies de peau. Et pour d'autres que nous idéalisons, je reviens sur l'image que nous avons de certaines personnes, pour d'autres que nous idéalisons, dont nous convoitons la beauté, dont nous convoitons la richesse, la popularité, pour d'autres, eh bien, le malheur ne se voit pas, forcément. Naaman, ça se voyait. Mais d'autres, ça ne se voit pas. Et d'autres parmi nous, sans doute, ça ne se voit pas aussi. Mais le malheur, il est bien là, derrière la façade publique qu'on se donne. Ça va ? Oui, ça va. Et le malheur mine toute leur vie. Tant et si bien qu'ils seraient prêts, s'ils pouvaient choisir, à se débarrasser de tout ce que nous leur envions, pour être débarrassé de tout ce qui les mine. Vaut-il mieux être riche et malheureux, ou bien pauvre et heureux ? Lors d'une expédition, des troupes araméennes avaient ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » C'est un personnage extraordinaire. Parce que c'est un personnage mineur, et dans tous les sens du terme, mineur par l'âge, on nous dit que c'est une petite fille, mineur par le statut, c'est une esclave, on pourrait paraphraser un meuble, peut-être ceux dont dans les cheveux desquels on se mouche quand on a perdu son mouchoir. Une captive, exilée, malgré elle, prisonnière de guerre, arrachée à sa famille, peut-être en deuil de sa famille. Elle est le fruit d'un raid. Emmenée de force à 100 km de distance. Pour nous, c'est rien, on fait ça en voiture dans la journée, ça va. Pas de voiture à l'époque. Dans un pays qu'elle ne connaît pas, où on adore des dieux différents, et où on parle aussi une langue différente de la sienne, pas très très différente, comme l'italien et le français, mais si vous vous débrouillez aussi bien en italien que moi, vous êtes mal barré. Et donc, déportée, ne sachant pas quel sort l'attend. Une petite fille. Le malheur, quand il vient, de toute façon, il vient toujours trop tôt. Elle le connaît au plus tôt, elle le connaît bien trop tôt. Mineure, par la place qu'elle tient dans le récit, vous l'avez devant vos yeux, inversé, deux phrases. Et extraordinaire personnage en même temps. Avec ce qu'elle a connu, ce serait tellement facile de sombrer dans la dépression, d'être inconsolable, se vouloir toujours inconsolable. Pauvre de moi. Oh. Et ce serait tellement facile de garder la rancune, de vivre avec la rancœur, de vivre avec la haine. C'est tellement facile à cultiver, à entretenir. Je me rappelle d'une personne à qui j'ai rendu visite il y a des années et des années, et qui a sorti son carnet où elle notait des choses. Et ce jour-là, le 15 mars de... à quelle époque c'était, 1998, telle personne a dit ça à La Réunion. C'était 6 mois avant. Tellement facile de cultiver la rancœur, la haine, jusqu'à sembler s'y complaire. Mais c'est parfois l'impression que donnent des personnes qui vivent des choses difficiles, et on peut l'entendre, mais c'est la façon dont elles les vivent, dont elles semblent continuer à choisir de les vivre. Ce serait facile pour cette petite fille de se plaindre et encore de se plaindre, d'être méfiant, d'être cynique. Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. On entend là qu'elle se souvient de chez elle. Et elle se souvient qu'il y avait là-bas un prophète qui accomplissait des miracles extraordinaires. Mais elle ne s'en souvient pas pour alimenter sa nostalgie ou sa rancœur. Elle s'en souvient pour apporter une information qui va être salutaire. Et c'est une information qui est étonnamment chargée de bienveillance et de compassion. Oh ! C'est pas très extraordinaire en français, mais en hébreu, le mot qui est employé est très très rare. Il est pratiquement unique. Et c'est une expression de douleur. Probablement à la fois la compassion pour le mari de sa maîtresse, et puis l'expression aussi d'un désir qui est pratiquement irréalisable. Comment le chef de l'armée syrienne pourrait-il se rendre en territoire ennemi pour se faire guérir de sa lèpre? Déjà, un Syrien lambda, si je puis dire, un ennemi d'Israël lambda, c'est pas gagné. Alors le général... Oups. Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. Naaman vint dire à son seigneur, « La jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi d'Aram dit, « Vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Alors il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Avec cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Alors on lit bien avant dans le texte, au chapitre 22 je crois, qu'entre Israël et la Syrie, c'est le début du texte, pendant 3 ans il n'y eut pas de bataille. Ce qui veut dire que 3 ans sans bataille c'est plutôt l'exception. Et quand c'est pas la guerre, c'est sans doute la méfiance. Les relations diplomatiques sont tendues, donc c'est pas gagné quand Naaman part, et on voit que c'est encore moins gagné quand il arrive. Hop, pourquoi ça marche pas ? Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» Qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Constatez, je vous prie, qu'il me cherche querelle. Donc la lettre qui est censée lui faciliter les choses, il vient pour raison médicale. La lettre censée lui faciliter les choses les complique. Elle peut paraître courte et brutale. Je t'envoie, mon général, guéris-le de sa lèpre. Mais c'est quoi ça ? La provoque, hein ? Vous voyez, il me cherche ! Et on va tout droit à l'incident diplomatique, c'est encore plus mal barré. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, je te prie, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te laver, cette fois, dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. » Et tu seras pur. Naaman s'irrita. Il s'en alla en disant, je me disais, il sortira et se tiendra devant moi. Il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu. Il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pouvais-je pas m'y laver pour devenir pur ? Il repartit en fureur. Alors ça se présentait mieux, puisque l'erreur d'aiguillage avait été corrigée. Le GPS du char va pouvoir conduire Naaman à la bonne adresse. Mais là, c'est le prophète qui va se comporter de manière... étrange, désinvolte. Voici Naaman devant sa porte avec ses chevaux et son char. Et on a lu plus haut qu'il avait des dizaines de kilos d'or, d'argent, 10 vêtements de cérémonie. Et à l'époque, ça coûte très cher. Et comme police d'assurance, j'imagine qu'il y avait sans doute, il n'est pas venu tout seul en portant ça à bout de bras, il avait sans doute une belle escorte pour le protéger et pour les protéger, les biens. Alors quand on voit arriver tout ça, ben, le minimum quand même, s'ils viennent devant sa porte, le minimum c'est de sortir quand même au moins, ne serait-ce que pour regarder, quoi. Juste, c'est pas tous les jours. Élisée reste invisible. Il n'ouvre pas sa porte au visiteur pour le faire entrer, il ne sort même pas pour le saluer, et Naaman est pourtant probablement à quelques mètres de lui. Géographiquement. Et Élisée lui envoie un messager. Ça peut paraître étonnant qu'on ait besoin d'un messager pour communiquer à quelqu'un qui est juste derrière, là. Quand comme si Naaman était un petit peu quantité négligeable. Alors on comprend Naaman, comme on dit aujourd'hui, ben il pète les plombs, quoi. Déjà, j'imagine qu'il souffre de sa maladie, et quand on souffre, on n'est pas bien. Il a fait l'effort de se rendre chez des voisins qui sont dangereux, même escorté. Est-ce qu'il se sentait si tranquille? Il a été mal reçu par le roi, et le prophète, lui, il le reçoit même pas du tout. Et il lui fait dire, désinvolte, d'aller se laver dans une rivière. Et puis c'est une rivière qu'il a déjà traversée en venant de Damas, et une rivière qu'il va nécessairement retraverser en rentrant chez lui. Et il est en colère. Et quant à général, j'imagine, pour un général, quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi, quand un général est en colère, j'imagine qu'on rase les murs et qu'on ne va pas s'exposer à lui faire la morale. Allez, respire, reste zen, calme-toi, tu es en train de tout gâcher là, réfléchis, ressaisis-toi. Essayez de lui dire ça au général en colère. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, s'il te dit, lave-toi et sois pur. Je nous invite à relever que c'est là, et c'est là une nouvelle fois, comme pour la petite servante, l'intervention de personnes très très modestes, de simples serviteurs, autrement dit des gens qui sont là pour obéir et pour se taire, des personnes à qui on ne demande jamais leur avis, vraisemblablement, c'est cette intervention-là qui va débloquer la situation. Ils vont s'y prendre avec tact. Ils s'approchent de lui. Apparemment, ils lui parlent en privé, discrètement. Pour s'adresser à lui, ils emploient un titre qui exprime à la fois leur affection et leur respect. Et c'est inhabituel. Mon père. Alors mon père, c'est pas le personnage religieux d'aujourd'hui, mon père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Et c'est curieux d'ailleurs parce que ses serviteurs et lui dire mon père au singulier, ses serviteurs au pluriel, mon père au singulier. Bon. Et puis ils ne font pas une démonstration complète, A plus B plus C égale. Non, ils disent des choses à moitié. Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, s'il te dit « lave-toi et sois pur », et la phrase est inachevée. Et c'est vraisemblablement fait exprès, il lui laisse le soin de tirer la conclusion lui-même. Ils vont pas lourdement insister, comme si c'était eux qui avaient raison et lui qui avait tort, mais tu comprends quand même, alors bon. Non, il laisse la phrase en suspens. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » C'est donc par cette affection et par cette suggestion discrète que Naaman, qui avait entrepris son voyage sur la vie de la petite servante de sa femme, se laisse à la fin persuader. Et Naaman en arrive à dire, « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » le récit ne s'arrête pas là, mais je vais m'arrêter là, moi, dans le récit. Alors il y a ceux qui attirent notre attention, parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils sont plus efficaces, parce qu'ils paraissent, en tout cas, plus forts, plus efficaces, plus riches, plus beaux, plus jeunes, ou plus remplis de maturité. Parce qu'ils ont le titre, être comme le grand général, comme le roi. Bon, ça me paraît un peu distant, on n'est pas très militaire aujourd'hui. Être comme tel ou tel chanteur. Tel ou tel chanteur chrétien, par exemple. Comme le prophète. Ah, le prophète. Sur son site, il y a plein de visiteurs, de visites. Il y a le chiffre, et puis on voit, on passe au 3e million. Il y a de belles photos. Nous aimerions qu'on parle de nous, en bien, à la télé. Je suis passé à la télé. Yes. Qu'on commente nos propos, qu'on commente nos actes. Qu'on tourne vers nous, le projecteur. Il y a ceux qui attirent notre attention. Et il y a, et ce n'est pas forcément les mêmes, des personnes par qui le miracle arrive. Et dans ce récit, ces personnes, ce sont une fillette, des serviteurs. Sans eux, Naaman n'aurait jamais été guéri. Une fillette qui a manifesté de la compassion. Des serviteurs qui y sont allés avec tact. Et l'une comme les autres n'ont prononcé qu'une seule phrase. Une petite phrase. Mais cette petite phrase, elle a fait toute la différence. Il est frappant de remarquer qu'il semble avoir agi, sans doute sans le savoir, en fait, dans la droite ligne de ce que Dieu avait fait avec Naaman. Dieu, en fait, et même ici Dieu avec son nom personnel, dans le récit, Yahweh, le Dieu d'Israël, n'intervient qu'une fois dans ce récit, enfin il est mentionné explicitement qu'une seule fois dans le récit, et c'est pour dire que par Naaman, il avait accordé la victoire aux Syriens. C'est par lui que le Seigneur, Yahweh, avait accordé la victoire à Aram. Alors on ne sait pas contre qui le Seigneur a accordé la victoire, et peu importe pour l'auteur du récit, mais c'est très déstabilisant en fait. Parce qu'on entend là que le Dieu d'Israël secourt les Syriens, secourt les ennemis d'Israël. Dieu s'intéresse aux ennemis d'Israël. Dieu est même souverain sur les actes militaires, même syriens, et on dirait aujourd'hui même russes, même ukrainiens. Donc les frontières ne limitent pas Dieu. Et ça peut choquer. Et ça a choqué, parce que quand Jésus va faire allusion à cette histoire, en disant que Dieu s'intéresse à non-juifs, à des non-juifs, eh bien il va choquer. Aucun prophète, dit-il, n'est bien accueilli dans sa patrie. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien, Naaman, qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère, eux aussi. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Et en tout cas, dans le récit de 2 Rois 5, on peut comprendre qu'en s'intéressant à la guérison du général syrien, du général ennemi, la petite servante ne trahit pas son peuple, et encore moins son Dieu. Elle est dans la droite ligne de ce que Dieu a fait avec Naaman. Oui, c'est peut-être ça. Alors aujourd'hui, Élisée est mort, et nous ne pouvons pas renvoyer à lui ceux que nous voyons en souffrance. Et pourtant, nous aussi, quelle que soit notre situation sociale, quel que soit notre âge, nous pouvons orienter vers celui qui est plus qu'un prophète, celui dont même le calendrier républicain conserve encore la mémoire de sa venue. Nous pouvons renvoyer vers Jésus, qui est né, qui est mort pour nous, et qui seul peut nous guérir d'une maladie bien, bien plus grave que des maladies de peau, du péché qui nous ronge et qui nous perd. Et pour faire cela, eh bien, il suffit de quelques gestes, il suffit de quelques mots. Et à cela, j'ajoute juste la chose suivante à partir de ce texte. Combien il est réconfortant pour nous. Combien il peut être encourageant pour nous de savoir que de simples petits gestes, de simples petits mots de notre part, une parole qui est dite au bon moment, chargée de sympathie, de compassion, peut contribuer à la réalisation des merveilles de Dieu. Je vous invite à prier. Notre Seigneur, toi qui es venu jusqu'à nous, nous prions, donne-nous ton amour, donne-nous le respect de l'autre, tout ce dont nous avons besoin pour être des insignifiants, des petits, mais des petits providentiels. Trouve-nous attachés à Jésus et renvoyants à Jésus.